RMC, de quoi je me mail, François Sorel.
Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce de quoi je me mail un peu particulier puisque je suis à Las Vegas au Consumer Electronic Show comme chaque année. À Las Vegas où se déroule donc début janvier, tous les ans, ce grand rendez-vous dédié aux nouvelles technologies avec tous les constructeurs. En fait, tout l'ADN des nouvelles technologies qui se retrouve ici et les nouveautés qui vont être prévues pour cette année 2010. Alors au menu, évidemment, on retrouvera tous les constructeurs qui seront là et qui nous présenteront leurs nouveautés. Mais pour débuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un que vous connaissez, qui est là toutes les semaines dans De quoi je me mêle, c'est Pascal Petitpas. Bonjour Pascal.
Bonjour François.
Ça change un peu des studios parisiens là, l'ambiance, hein.
C'est pas désagréable d'être à Las Vegas, je dois l'admettre.
Exactement. Pascal qui vient là aussi pour le boulot, hein. L'intérêt pour vous, Pascal, de venir ici en tant que directeur des labos Fnac, c'est de sentir les tendances, de voir un peu ce que les constructeurs présentent.
Oui, exactement. On a parfois un peu déjà des pré-présentations de produits sur la fin d'année, mais là, ça permet de voir réellement ces produits commercialisés. Et puis souvent, les constructeurs s'amusent à nous faire quelques surprises et on découvre ici, alors parfois de manière visible ou parfois de manière un peu cachée, c'est-à-dire derrière le rideau, comme on dit, des nouveautés ou des produits qui sont assez exceptionnels toujours au niveau soit des caractéristiques ou soit du design, parce que le design a beaucoup d'importance.
Oui, le design a beaucoup d'importance, on s'en est rendu compte, hein. On a sillonné un petit peu tous les stands. Alors Samsung a des produits superbes. Tout à l'heure, on écoutera l'interview d'Alain Apriou qui est directeur marketing chez Toshiba France et qui là aussi font pas mal d'efforts sur le design. Et puis ont un processeur dans leur téléviseur qui s'appelle Cell.
Absolument, qui équipe d'ailleurs la PS3.
Ouais. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça tient, avant de tout à l'heure de retrouver l'interview d'Alain Apriou, c'est intéressant de rajouter un processeur de PlayStation 3 dans la télé.
Alors en fait, ce processeur, il a été prévu au départ pour le Japon. Les Japonais sont très gros consommateurs d'enregistrement de haute définition. Ils aiment bien posséder, ils aiment bien enregistrer. Et donc ce produit est commercialisé là-bas avec un disque dur de 3 teraoctets. Donc c'est absolument énorme. Et donc le Cell permet par son traitement de pouvoir enregistrer même plusieurs chaînes de manière simultanée. Alors l'application qui va en faire être faite en Europe est assez différente, puisque l'idée du Cell, ça va être non seulement d'améliorer la qualité d'image, la gestion du rétroéclairage, mais aussi de pouvoir transformer une émission 2D directement en 3D en temps réel. Puisque bien sûr, sur ce salon, il y a une nouveauté qui trône de manière évidente, c'est bien la 3D.
Oui, alors bon, on reparlera du Cell tout à l'heure. C'est vrai, la télé 3D, alors on en parle depuis un moment, hein, Pascal, déjà l'année dernière, pour l'édition 2009, on voyait comme ça, caché dans des coins, derrière des rideaux, des téléviseurs, prototypes avec des écrans où on pouvait apprécier la 3D. Là, cette année, plus personne ne se cache. C'est quelque chose qui est prévu, qui va sortir courant 2010.
Absolument. C'est vrai que l'année dernière, on a vu ces premiers zombies porter des lunettes un peu particulières parce que, rappelez-vous, on en a déjà parlé, mais quand on parle de 3D, on parle bien de 3D avec lunettes, passives ou actives. On y reviendra. Mais c'est vrai que là, sur tous les stands, on peut presque dire que partout, on voit de la télévision en 3D, plus exceptionnelle, bien sûr, chez les uns que chez les autres. C'est toujours assez fantastique. Alors, avec soit effectivement des démonstrations qui mettent vraiment en avant cette profondeur d'image, parce que la 3D, c'est d'avoir ce relief. Et c'est vrai que pour qu'elle ait vraiment tout son intérêt, il faut un premier plan et un arrière-plan. Donc on voit des démonstrations assez exceptionnelles. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les constructeurs ne font pas l'erreur qui a pu être commise il y a quelques temps avec Blu-ray face au HD-DVD ou autre. On voit que très naturellement, tout le monde se dirige vers des lunettes actives, c'est-à-dire vers la meilleure des 3D.
Alors, ça c'est peut-être pas mal, Pascal, d'expliquer un petit peu comment fonctionne la télévision en 3D, alors sans rentrer dans des explications compliquées, et puis surtout expliquer les deux technologies qui sont en concurrence.
Absolument.
La 3D avec des lunettes actives et puis l'autre avec des lunettes passives. C'est quoi la différence?
Exactement. Le principe de la 3D, c'est de filmer avec en fait une caméra qui possède deux objectifs. Et d'ailleurs, ces deux objectifs de caméra ont la même séparation que les yeux humains, c'est-à-dire environ 6,5 cm. Et donc, le principe va être de créer à la prise de vue le relief que l'on a lorsqu'on regarde, nous, quelque chose dans la vie courante. Quand on va afficher cette double information qui correspond aux yeux gauche et droit, eh bien, il va falloir donner des informations à chacun des yeux. Pour ça, soit on utilise des lunettes qu'on appelle passives, et à ce moment-là, les lunettes vont être polarisées. Ça veut dire que l'écran, comme les lunettes, l'œil droit ne pourra voir qu'une information à moins 45 degrés, l'œil gauche à plus 45 degrés, et donc on va avoir des lunettes peu cher, c'est l'avantage de cette technologie.
C'est un peu les lunettes qu'on a tous connues quand on était petit.
Ce ne sont pas les lunettes anaglyphes qui étaient bleues et rouges.
Parce que c'est
là,
pas
c'est...
ça.
Ah non, ça c'est... Là, c'est vraiment des lunettes polarisées. C'est simplement des lunettes qui sont un peu grises quand on les regarde et qui ont à l'intérieur un polarisant qui nous permet de voir qu'une seule constituante
donc
de l'image.
Donc c'est déjà plus sophistiqué que les lunettes en plastique qu'on avait dans les petits gadgets.
Ça n'a pas le problème de changement colorimétrique que pouvaient avoir les lunettes anaglyphes. Donc ça marche très très bien. On a une bonne définition. Il y a un inconvénient, c'est que ça ne nous permet pas d'avoir toute la vraie très haute définition. Avec ces lunettes passives et cette technologie donc, que l'on vient d'expliquer, eh bien, on pourra s'arrêter uniquement aux 1080i, 1080 entrelacés. Or, la haute définition générée par les Blu-ray aujourd'hui, c'est du 1080p.
Donc c'est encore meilleur.
C'est encore meilleur. D'accord. Et pour ça, il n'y a qu'une technologie qui peut permettre d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la 3D plus la très haute définition.
Ouais.
Ce sont les lunettes actives, où là, en fait, les lunettes sont des écrans LCD, où on va avoir une obturation, un coup sur l'œil gauche, un coup sur l'œil droit. Ce qui veut dire qu'à un moment T, seul l'œil gauche voit l'image, et donc l'écran envoie l'image qui correspond à l'œil gauche, et puis ensuite, c'est l'œil droit, et ainsi alternativement. Il faut pour ça des téléviseurs spéciaux, bien sûr, qui sont tous ces téléviseurs qu'on nous présente ici sur ce salon.
Les deux systèmes sont incompatibles, bien sûr. Un téléviseur qui proposera de la télévision, de la 3D passive ne marchera pas avec des lunettes actives et vice-versa.
Par contre, un signal 3D pourra être regardé sur l'une ou sur l'autre des technologies.
D'accord. Les lunettes actives ont besoin d'énergie électrique.
Les lunettes actives sont équipées,
différence
en fait,
des lunettes passives.
Exactement, d'une petite alimentation qui généralement propose
dedans.
À peu près 15 heures d'autonomie. On peut parfois les remettre sur un petit chargeur et donc recharger la batterie la nuit. Donc 15 heures, ça laisse un peu de marge. Et en fait, il y a un petit émetteur infrarouge qui se situe sur le téléviseur qui va venir synchroniser les lunettes avec l'écran.
D'accord, donc il faut vraiment être... il faut capter ce signal infrarouge pour
Absolument.
Que ça fonctionne.
Pour que ça soit synchronisé. Donc,
D'accord.
toute la petite famille, si on regarde à quatre, eh bien, chacun va porter ses lunettes. Mais c'est vrai que le spectacle est au rendez-vous. Tous ceux qui ont l'occasion de voir Avatar savent, bien sûr, de quoi je parle.
D'accord, les lunettes. Est-ce que demain, on pourra acheter des lunettes à peu près, pas n'importe où, mais dire, ben voilà, tiens, j'ai envie d'acheter une paire de lunettes 3D parce que j'ai un écran 3D. Je serai obligé de l'acheter chez tel constructeur parce que j'ai par exemple une télévision d'une marque X. Les lunettes ne fonctionneront qu'avec cette marque X ou il y aura un standard ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des grands fabricants de lunettes qui existent. Il y en a un qui s'appelle RealD, R-E-A-L-D. Et qui est aujourd'hui un grand fournisseur de lunettes 3D et qui commence à faire des accords avec des grands constructeurs pour équiper avec sa technologie ses téléviseurs. Alors, bien sûr, en règle générale, avec le téléviseur, il y aura une paire de lunettes fournies, peut-être éventuellement deux. Ensuite, si on veut équiper l'ensemble de la famille, il faudra racheter des lunettes complémentaires.
Ça coûtera cher ? On a une idée déjà du
Alors,
prix ou pas ?
Le prix de lunettes passives, c'est vraiment très très bas, puisque c'est environ 2-3 euros. Par contre, les lunettes actives, ça sera entre 30 et 50 euros.
Ah, quand même ! C'est
Absolument.
Pas anodin, hein ?
Mais comme le prix des téléviseurs...
Voilà,
enfin, ouais. disons, il ne faut bien pas oublier que lorsqu'on va parler de 3D, c'est une chaîne 3D, c'est-à-dire qu'il faudra un lecteur Blu-ray approprié, il faudra également un nouveau téléviseur, et que dans tout ça, le prix des lunettes sera ouais. bien faible par rapport au prix ouais. d'équipement de
l'ensemble. Voilà, par rapport à l'investissement qu'on aura mis là-dedans. Quels sont les constructeurs qui ont choisi la technologie passive et ceux qui ont choisi la technologie active ?
Alors en fait, les dés sont quasiment jetés puisque en passif, on trouve deux constructeurs actuellement qui sont JVC et LG. LG annonçant déjà en fait que la première génération de produits 3D qui arrivent sont bien en passif, mais qu'ils passeront ensuite assez rapidement en lunettes actives. Les autres grands constructeurs qui s'appellent Sony, Samsung, Panasonic, Toshiba, eh bien eux ont déjà annoncé qu'ils
D'accord.
seraient en technologie active.
Donc le problème ne se pose pas, la 3D voilà. passive, en tout cas avec les lunettes passives, va disparaître assez rapidement, c'est ça, pour
voilà,
laisser
on
la prend, place.
Bah, tout le monde a l'idée de se dire autant faire de la qualité,
oui,
parce que
suite.
Ça pourrait être très déceptif d'avoir
D'accord.
la 3D, mais de perdre la qualité de la
Vous avez
définition.
Testé les deux systèmes, il y a une différence, honnêtement.
Alors, honnêtement, pour la plupart
les deux.
Des consommateurs, je dirais que les deux technologies fonctionnent très très bien. On peut voir ici des démonstrations en lunettes passives qui fonctionnent très très bien. Mais il y a aujourd'hui en fait un choix qui se fait. Et le support idéal pour le Blu-ray, c'est d'exploiter bien sûr le 1080p. Donc place à l'actif et c'est vraiment ça notre avenir.
On parlait tout à l'heure de design, de finesse, de d'épaisseur d'écran. On arrive à des choses, là on change de sujet, hein,
oui.
mais c'est quelque chose aussi qui ressort véritablement de ce CES.
Oui.
C'est la taille des écrans chez LG, chez Samsung,
il faut
on arrive à des
le
choses
croire.
Incroyables. Hein.
C'est vrai qu'on a vu sur cette année 2009 eh bien, le succès de Samsung avec ses téléviseurs de la série 6000-7000. C'était des téléviseurs qui faisaient environ 30 mm d'épaisseur et qui ont complètement séduit le couple au moment de l'achat. Là, on voit des produits, alors on en voyait déjà l'année dernière des produits de quelques millimètres d'épaisseur, mais on nous annonçait à chaque fois, oui, ça sera dans quelques années. Là, les téléviseurs qui font 7 mm, 6 mm d'épaisseur sont annoncés en commercialisation pour cette année.
Mais ce n'est plus des prototypes.
C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Alors avec des logiques qui sont différentes, il y a des choses. Les ingénieurs ont des imaginations fertiles. C'est absolument fantastique. Par exemple, on peut reprendre le cas de Samsung, qui a un téléviseur qui est de la série 9000, oui. et qui a en fait un pied, et c'est le pied qui contient la partie électronique, ce qui veut dire que l'électronique est bien dans l'ensemble téléviseur plus pied, mais là on pourrait se dire, mais si je mets mon téléviseur au mur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien c'est ce pied qui se transforme en support mural, ce qui veut dire qu'on conserve alors toute l'électronique, donc c'est absolument fabuleux.
Voilà, en fait il change de position, hein, c'est
exactement.
Ça.
Exactement, LG a une autre idée tout à fait remarquable également, c'est de dire, il y a un tuner intégré dans mon téléviseur, mais si vous souhaitez le mettre au mur, vous achetez un petit boîtier extérieur, et là vous allez communiquer sans fil ces informations de connectique, c'est-à-dire c'est vous qui faites le choix, ensuite d'utiliser la connectique intégrée et le tuner intégré, ou une connectique extérieure. Donc il y a énormément d'idées autour de la fixation même du produit.
Alors mention spéciale pour Samsung, qui en matière de design a radicalement changé ses produits cette année, surtout dans les téléviseurs haut de gamme, hein, ça va sortir dans quelques semaines, quelques mois. Je vous invite vraiment à les regarder parce que
Fallait oser, parce que Samsung est le leader de la télévision en France avec un design qui est très particulier. Oui, et ils ont vraiment choisi de faire une totale rupture
avec de l'acier brossé,
c'est superbe, des pieds exceptionnels, qui sont également superbes.
Bon. Quoi d'autre, Pascal ? Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ce CES 2010 ?
Alors, dans les produits assez extraordinaires aussi, alors chez Panasonic, on découvre un produit étonnant, il faut le voir, c'est un produit qu'on appelle 4K, c'est une image qui fait 4000 sur 2000, donc 8 millions de points sur l'image, c'est étonnant. Surtout, il fait 152 pouces.
Ah oui, donc c'est un écran fait rêver.
Qui fait rêver. Alors simplement, il faut quand même imaginer que Panasonic vient de construire sa dernière usine qui lui permet maintenant de commercialiser, on pourrait presque dire à grande échelle, ces téléviseurs de très grande taille, avec des applications bien sûr professionnelles, on l'imagine. Aussi, une chose qui n'est pas du tout négligeable, c'est quand on va sur le stand de Sharp, on s'aperçoit que Sharp a sorti un écran qui a une quatrième couleur. On sait aujourd'hui que les écrans sont avec des luminophores rouge, vert et bleu.
Oui, le fameux RVB.
Voilà, et là, ils ajoutent en fait une couleur jaune qui va permettre d'améliorer la saturation des couleurs. Alors, pourquoi c'est important de noter ça ? Simplement parce que Sharp est un des plus gros fabricants de dalles LCD. Et Sharp alimente, entre autres, on peut les citer, Sony, Philips, s'équipe d'écran Sharp. Ce qui veut dire que cette technologie qui est réservée à Sharp pour l'instant,
et va arriver très
certainement
dans les prochaines
générations. Arrivera également sur d'autres produits.
C'est du marketing ou ça apporte une hausse de la qualité de l'image?
Alors
qui
pour
est visible.
Ça, je laisserai les produits passer au laboratoire pour qu'on voit s'il y a effectivement une amélioration de qualité. Mais je crois qu'on peut faire confiance en ce très grand fabricant de panneaux LCD pour que dire s'ils ont fait cet investissement, c'est pour arriver à quelque chose d'intéressant.
Pascal, on se rend compte aussi que les télés sont maintenant pratiquement toutes connectées.
Oui.
Ça va devenir quelque chose d'habituel dans quelques mois. Lorsque vous achèterez votre télé, vous ne poserez plus la question, vous pourrez la brancher sur votre box ADSL.
Absolument, une majorité des téléviseurs maintenant est connectée, donc possède alors soit une prise Ethernet, soit la possibilité de mettre un dongle Wi-Fi. Et là, on va accéder à tout un tas de
fonctionnalités. Il y a le CPL aussi qui marche bien.
Le CPL, hein. Absolument.
Donc vous faites transiter les informations Internet par le courant électrique
exactement.
À la maison.
Exactement, donc on a bien sûr l'échange des fichiers avec l'ordinateur qui est le DLNA, on a les widgets et autres, mais il y a des fonctions intéressantes. C'est Panasonic et LG qui viennent de signer un partenariat, par exemple, avec Skype. Et avec Skype, on connaît tous Skype, hein, qui permet de téléphoner gratuitement, et bien là on va pouvoir visualiser son interlocuteur directement sur son nouveau grand écran.
Ça.
Et ça marche plutôt pas mal. La définition n'est pas la haute définition, mais c'est quand même très séduisant. Et c'est une des fonctions
intéressantes.
C'est la
vidéoconférence pour la famille en fait.
Exactement.
C'est ça.
Et donc très simplement, puisqu'il suffit de brancher une petite caméra spécifique sur une prise USB. Et là, c'est une caméra qui est d'ailleurs haute définition, même si c'est de la haute définition intermédiaire.
Voilà, LG qui a passé un accord avec Orange pour distribuer en fait les produits, en fait le portail Orange avec de la vidéo, des informations, etc. On voit là aussi les alliances qui se font
exactement.
Entre les constructeurs et les diffuseurs. Hein.
Voilà, on voit du M6 Replay aussi, c'est-à-dire qu'on voit effectivement que ces téléviseurs connectés permettent de faire une multitude de choses, et entre autres de la catch-up TV ou de la VOD même, puisqu'on parle de plus en plus d'avoir directement sur le téléviseur et bien de la VOD disponible, comme on peut le faire aujourd'hui avec une box ou avec du satellite.
Voilà, pas mal de nouveautés aussi au niveau des e-readers. Hein. On a vu sur le stand Samsung des nouveaux livres
électronique chez Samsung, exactement.
Avec quand même une information importante, c'est l'accord que Samsung a passé avec Google, qui est quand même le géant de l'Internet. Et Samsung a passé cet accord pour permettre simplement à Google d'afficher tous leurs livres disponibles. Hein. Alors, ils en ont des millions, bien évidemment.
Oui, absolument, oui.
Et surtout des livres du domaine public qui sont totalement gratuits et qu'on pourra télécharger et regarder.
Et le produit est très sympathique avec un beau design et bien sûr toujours cet avantage de l'encre électronique qui est très très agréable à regarder.
Voilà, alors il est Wi-Fi, hein, on peut très simplement le brancher sur votre box et là vous téléchargez du contenu. On peut écouter de la musique, etc.
Voilà, c'est puis une nouveauté, on aura l'occasion certainement d'en reparler, mais par exemple des petits produits comme des smartbooks qui sont des produits intermédiaires entre les netbooks et les smartphones. smartphone qui
allie chez Lenovo qui est super.
Voilà, l'avantage d'une et l'autre technologie et donc en attendant aussi des tablettes tactiles, dont une célèbre tablette tactile qui sera présentée certainement à la fin de ce mois par un grand constructeur. Et bien, il y a déjà beaucoup de produits qui sont présentés ici.
Qu'est-ce que vous avez vu d'autre à ce CES? Il y a d'autres choses qui vous ont parce que c'est vrai que bon. Il y a une telle multitude de produits qu'on ne sait plus trop où donner de la tête.
Ah oui, c'est assez impressionnant. Alors c'est vrai qu'il faut imaginer, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion et le bonheur de venir ici, que c'est quand même quelque chose d'immense. Hein, c'est le plus grand salon de l'électronique professionnelle.
Et alors j'ai lu qu'il y avait 300 exposants en plus par rapport à l'année dernière.
Absolument.
Ouais. Donc ça marche.
Et c'est vrai que ce qui est assez amusant, c'est de voir se côtoyer ici des grands fabricants connus au niveau mondial et des tout petits fabricants parfois chinois.
Qui viennent avec des bouts de carte mère.
Exactement, des petits trucs fabriqués impression dans la cave.
Ouais, c'est
mais il y a pour autant des choses tout à fait intéressantes, non seulement en termes de connectique, de liaison sans fil. On voit de plus en plus de systèmes de liaison HDMI haute définition sans fil. Ça va totalement, bien sûr, avec la logique que l'on voit ici. On voit aussi, dans le domaine de la vidéoprojection, des tout petits produits qui ont des pêches absolument extraordinaires. On en voit, par exemple, chez Casio, qui annonce des produits assez exceptionnels, d'ailleurs, à venir. Donc voilà, toute une grande richesse. La carte aussi SDXC qui est annoncée chez Panasonic. Il y a plus de 30 produits qui vont dans cette marque exploiter cette carte SDXC. Il faut rappeler quand même que cette carte qui peut exister sous une forme micro, c'est-à-dire grosse comme un ongle, pourra avoir une capacité jusqu'à 2 teraoctets.
Ah oui, on en avait parlé il y a très longtemps de ça.
Absolument.
Hein, ça arrive. Hein.
Ça arrive, les produits arrivent. Donc il y a énormément de fabricants d'appareils photo qui ont annoncé la compatibilité SDXC. Et dès cette année, des cartes de 64 gigaoctets qui seront disponibles. Donc c'est intéressant non seulement pour la photo, mais bien sûr aussi, on l'imagine, pour la vidéo.
En matière de photos, vous avez vu des choses? Alors bon, il y a Samsung qui sort son compact réflexe, entre guillemets.
Exactement, le NX, était un produit très attendu parce qu'il a été présenté il y a à peu près un an. On l'avait attendu sur l'automne et ce produit vient juste.
Qui se positionne en fait un peu dans le segment
un petit peu dans la catégorie des micro 4 tiers, exactement. Et puis on peut imaginer que beaucoup de constructeurs doivent commencer à se poser des questions sur cette technologie intermédiaire entre les compacts et bridge et les réflexes.
Ouais.
Et on peut penser que dans les mois à venir, il y aura certainement de la part d'autres constructeurs des idées ou des propositions de produits très compacts avec des objectifs interchangeables.
On murmure que Sony pourrait se mettre sur ce segment-là. Hein.
On murmure, effectivement.
Oui, c'est vrai. Alors voilà, les murmures ici, il y en a beaucoup. Hein. Vous les entendez derrière nous, d'ailleurs, parce que là, autant vous dire qu'on réalise ce rendez-vous comme ça, là, à la table d'un petit café en plein cœur de ce CES.
Voilà.
Et que c'est un vrai régal.
C'est assez exceptionnel, effectivement, de se trouver ici et c'est toujours passionnant.
Bon, même si on ne dort pas beaucoup. Hein,
on est un tout petit peu fatigué.
Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 9 heures de décalage par rapport à la France. Pascal Petitpas, merci.
Merci François.
Rentrez bien et on se retrouve la semaine prochaine de retour dans nos studios parisiens.
Avec plaisir.
Merci Pascal Petitpas, donc directeur des labos Fnac. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle dans un instant. Allez, on va sillonner ensemble les stands de ce CES et interviewer quelques-uns des patrons des grands constructeurs. À tout de suite.
RMC, de quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, le retour de quoi je mêle sur rmc.fr, toujours au CES 2010. On s'est arrêté au stand Toshiba, j'ai à mes côtés Alain Priou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur marketing de tout ce qui est EGP chez Toshiba France. Alors EGP, c'est tout ce qui est l'audio-vidéo. Et c'est vraiment une révolution pour Toshiba, vous annoncez pas mal de nouveautés, avec entre autres un nouveau processeur qui arrive dans vos modèles, qui s'appelle le Cell. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, bien sûr. Donc le Cell, c'est un processeur particulier qui a été développé donc avec d'autres acteurs d'électronique mondiale et qui a permis donc de développer le processeur en fait le plus puissant disponible aujourd'hui. Et l'idée a été de l'intégrer dans un téléviseur, puisqu'on sait que le téléviseur, c'est quand même un outil essentiel de la vie des consommateurs. Et donc Toshiba a eu une démarche d'intégrer ce processeur dans cet outil indispensable qu'est le téléviseur. Alors, processeur puissant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un processeur qui est capable de gérer une multitude d'informations et qui est capable de les gérer très très vite et de les transférer très très vite. Donc on a intégré ce processeur dans une nouvelle génération de téléviseurs qu'on appelle téléviseur Cell, que l'on a commencé à introduire au Japon au mois de décembre et qui connaissent un véritable succès dans la catégorie produits haut de gamme, même si aujourd'hui on sait que le prix des téléviseurs chute de façon vertigineuse. Mais néanmoins, il y a encore des consommateurs qui veulent des produits sophistiqués. Et Televisor Cells seront également introduits aux États-Unis fin du premier trimestre 2010 et à la rentrée vers le mois de septembre en Europe et en particulier en France.
Alors bon, un processeur dans une télé, il y en a déjà depuis de nombreuses années. Il faut de l'électronique pour qu'une télé marche. Sauf que là, on passe à la vitesse supérieure. Dès qu'on parle de Cells, tous les passionnés de jeux vidéo, tout de suite ont l'oreille qui est un peu tendue parce que c'est le processeur qu'il y a dans la PlayStation 3. Parce que le Cells, c'est un processeur très puissant qui a été conçu à la fois par Sony, par vous, par Toshiba, mais aussi par IBM, c'est ça ?
Voilà, exactement. Donc, il a été nécessaire de réunir en fait les expertises, les compétences de ces trois géants de l'électronique mondiale pour arriver à définir ce processeur. Et en fait, on arrive à avoir un outil qui permet de gérer l'information 150 fois plus vite qu'un téléviseur classique.
Alors ça permet entre autres le sel, un truc incroyable, on parle beaucoup de télévision en 3D ici lors de ce CES, ça permet de transformer une image 2D en 3D.
Exactement, donc en fait la 3D, on sait qu'aujourd'hui c'est une direction très très forte de l'électronique grand public pour les mois et les années à venir. Après avoir bien maîtrisé la qualité haute définition de l'image, maintenant on s'oriente vers l'image en 3D, en trois dimensions. Et beaucoup de films maintenant vont être tournés en 3D, donc ça va permettre d'alimenter les contenus de façon régulière. Mais il faut bien admettre que dans un certain délai, le nombre de contenus sera assez réduit. Et Toshiba a eu l'idée de s'appuyer sur le processeur pour essayer de transformer en fait la dimension classique, la 2D, en 3D, c'est-à-dire la nouvelle dimension.
C'est-à-dire que bon, aujourd'hui on a Avatar qui est filmé en 3D, mais si j'ai envie de me revoir, Il était une fois dans l'Ouest en 3D, grâce à cette télé, je pourrais le faire.
Voilà, c'est une excellente idée, puisque c'était un excellent film. Donc en fait, c'est extrêmement simple, puisque le processeur va tout simplement aller analyser l'image telle qu'elle est aujourd'hui. Dans une image, il y a pas mal de composantes. Il va analyser chaque composante. Et à partir de là, il va créer artificiellement deux images. Une image pour l'œil droit, une image pour l'œil gauche. Et c'est le cerveau humain qui, quand il va recevoir ces deux images, va en fait les réunir et va retrouver l'image complète et va retrouver cette impression de relief.
Avec des lunettes, bien sûr, toujours.
Il faudra bien entendu des lunettes qui permettront recevoir et de déchiffrer l'information telle qu'elle est envoyée par l'image du téléviseur.
En revanche, on ne pourra jamais jouer avec un téléviseur Toshiba qui fait du sel. Là, il n'est pas utilisé de la même manière que dans une PlayStation 3.
Non, il n'est pas utilisé de cette même façon. Donc, le téléviseur sel proposeront cette option dès le mois de septembre 2010 et permettront soit d'avoir de la 3D originelle, donc tous les nouveaux films, grands spectacles, tels le dernier Avatar, pourront passer en 3D sur les téléviseurs, et sur des images plus classiques, mais quand même, je dirais, grand spectacle, genre les compétitions de sport.
Des images en HD au départ.
Des images en HD, voilà. Ces images-là pourront être transformées pour être vues en 3D.
Alors, elle a un prix où ça arrive quand en France, le sel dans les téléviseurs Toshiba ?
Alors, après une certaine hésitation, puisqu'on parle quand même de téléviseurs d'un certain prix, et qu'aujourd'hui, malheureusement, le prix moyen d'un téléviseur LCD est plutôt aux alentours de 500 euros, on s'est beaucoup posé la question de la pertinence de tels produits. Mais je crois que l'apport technologique est tellement important, l'apport visuel pour le consommateur est tellement important, que la question ne se pose plus, et que nous introduirons ces produits en Europe, et en France en particulier, vers le mois de septembre 2010.
À quel prix, à peu près ? On a une idée déjà ?
Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de déterminer un prix, mais on peut...
Tu sais qu'au Japon, cette année, enfin en fin d'année, c'était quand même des téléviseurs qui coûtaient plusieurs milliers d'euros.
Oui, c'est ça, on était aux alentours de 7 à 8 000 euros, donc je pense que je ne sais pas si ce sera exactement le prix en Europe, mais on n'en sera certainement pas très très loin. Mais c'est pas du tout un frein, parce que je veux dire, il existe aujourd'hui une France de consommateurs qui est en général ce qu'on appelle des early adopters, qui est toujours enclin à essayer d'adopter les technologies nouvelles. Ces gens-là sont prêts à investir dans ce genre de produits, et on sait que nos produits seront acceptés au moment où ils sortiront. Et bien évidemment, après, une fois que nous aurons introduit ces produits-là, il est tout à fait envisageable d'avoir des produits de niveau plus accessible pour le consommateur qui bénéficieront de cette technologie.
Alain Priou, merci. Rappelons que vous êtes le directeur marketing de Toshiba France pour l'EGP. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
RMC, de quoi je me mail, François Sorel.
Petit détour maintenant par le stand Sony ici lors de ce CES 2010 et j'avais côté le directeur général de Sony France, Philippe Citroën. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pas mal de nouveautés bien sûr sur ce stand. La télévision en 3D, plus que jamais présente. Ça y est, la télévision en 3D chez Sony, c'est pour la Coupe du Monde.
Oui, ça y est, 2010, c'est vraiment l'année de la dernière révolution de la télévision. Après la télévision en couleur, la télévision haute définition, on arrive maintenant avec la télévision en 3 dimensions. Et ça y est, je crois que tous les éléments du puzzle sont prêts pour que les téléspectateurs puissent en bénéficier assez rapidement. Effectivement, comme vous l'avez dit, en tant que sponsor de la Coupe du Monde, on a signé un partenariat avec la FIFA, donc il nous autorise à filmer en 3D 25 matchs de la Coupe du Monde à partir du 11 juin prochain.
25 matchs qui seront retransmis, et qui pourra regarder ces matchs en 3D, Philippe Citroën ?
Alors tout ça est encore en cours de discussion avec des chaînes de télévision, mais d'ores et déjà, on sait qu'à Paris, dans un lieu public qu'on est en train de sélectionner, on pourra inviter un grand nombre de spectateurs à venir assister à la projection en 3D des matchs de foot.
C'est bien le foot en 3D ?
C'est très spectaculaire, ça, c'est vraiment une nouvelle expérience, ça apporte considérablement à l'émotion. Enfin, on voit vraiment le ballon qui vous arrive, qui sort de l'écran, qui vous arrive dessus, et vous avez infiniment plus de profondeur. Ça permet de mieux comprendre le jeu, d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'on voit mieux le déplacement et le positionnement des joueurs sur le terrain.
Alors, une bonne nouvelle aussi pour tous les possesseurs de PlayStation 3, ils sont de plus en plus nombreux, hein, depuis que la console a subi une baisse de prix assez impressionnante il y a quelques semaines de cela. La PlayStation 3 va devenir compatible télévision en 3D ?
Ça sera un des maillons de la chaîne, effectivement, puisqu'on aura des téléviseurs qui seront 3D, et on aura aussi des lecteurs pour les gens qui souhaitent regarder des films. Alors ça sera du Blu-ray en 3D, ça y est, on s'est mis d'accord sur le système de Blu-ray 3D. On va commercialiser des lecteurs Blu-ray 3D, et pour ceux qui ont déjà une PlayStation, ils auront la possibilité de l'upgrader avec un firmware à partir du mois de septembre pour qu'elle devienne 3D.
Ça, c'est une très bonne idée, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude qu'un constructeur fasse durer un produit comme ça aussi longtemps, hein, et ça évitera à tous ceux qui ont déjà une PlayStation 3 d'acheter un nouveau lecteur Blu-ray 3D pour bénéficier de la 3D. C'est une bonne nouvelle.
Ce sont maintenant des nouveaux principes avec les produits qui sont connectés. Je pense en particulier aux téléviseurs. Les gens ne le savent pas, mais il arrive qu'on remette à jour des softwares de téléviseurs uniquement en envoyant un signal par leur antenne, donc ça se fait la nuit pendant qu'ils dorment, et on répare ou on améliore les téléviseurs comme ça.
D'accord, donc bientôt on n'aura même plus besoin de réparateur à la maison, il passera par l'antenne qu'il y a sur le toit.
C'est le cas de figure idéal, bien sûr, qu'on puisse intervenir à distance, bien sûr.
Alors la télévision en 3D, on en parle beaucoup, tout le monde, tous les constructeurs sont sur le coup. On attend maintenant les premiers modèles qui seront disponibles, et enfin, que toute la chaîne de l'image soit prête. On sera prêt quand pour la Coupe du Monde ?
Alors la Coupe du Monde, c'est une anecdote, mais effectivement, nos premiers téléviseurs...
C'est un coup médiatique en fait.
C'est un coup médiatique aussi. Nos premiers téléviseurs 3D seront disponibles au moment de la Coupe du Monde de cet été.
À des tarifs beaucoup plus élevés que ceux des téléviseurs actuels ?
Non, ça c'est l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça, le premium pour passer d'un téléviseur classique à un téléviseur 3D, ça correspond à une caractéristique supplémentaire. On n'a pas encore annoncé de prix de façon définitive, mais ça va correspondre à quelques petites centaines d'euros.
Et est-ce qu'on peut demain imaginer, par exemple, que la télévision 3D soit diffusée par la TNT ? C'est quelque chose que vous suivez, ça ? Ça pourrait arriver ?
Oui, alors là, tout ça est en train de se mettre en place aussi. La difficulté, c'est qu'il faut trouver de la bande passante. Il faut trouver de la place sur les canaux pour diffuser. Donc je ne pense pas que les premières diffusions de 3D sont sur la TNT, mais peut-être pour plus tard.
Le satellite sera peut-être le premier vecteur ?
Le satellite, le câble, bien sûr, oui.
Alors, bon, la télévision en 3D, ça avance, mais il y a d'autres projets, d'autres produits hein, chez Sony qui ont été annoncés comme une petite caméra très sympa qui s'appelle le Bloggy, qui a été annoncé lors de ce CES, hein, qui vient juste de sortir, et qui se veut être une petite caméra personnelle qu'on garde tout le temps sur soi, c'est ça ?
Oui, c'est un objet personnel, alors c'est un peu le nouveau caméscope. Donc le Bloggy, c'est un petit caméscope extrêmement compact qui permet de tourner des images en haute définition et surtout qui permet, grâce à un connecteur USB qui est intégré, de brancher tout de suite le Bloggy sur un ordinateur et immédiatement, ça permet d'ouvrir des applications comme YouTube, Facebook et d'uploader immédiatement ces images sur Internet. Donc c'est vraiment le carnet de notes moderne qui permet de faire des images et de les uploader sur Internet tout de suite. Il a en plus un petit gadget amusant, c'est qu'on a un petit accessoire qui vient se connecter sur l'objectif et qui permet de faire des images à 360 degrés, c'est très amusant.
Ah d'accord, donc on va pouvoir filmer tout autour de nous, sans arrêter, recommencer.
Sans avoir à tourner et à faire la toupie, on va pouvoir se promener en filmant tout ce qui se passe autour de nous. Donc ça, c'est assez amusant.
Le Bloggy sort quand en France ?
Le Bloggy sort au mois de février.
Et à quel prix ?
À un peu moins de 200 euros.
Alors, il y a un système concurrent au vôtre, le Flip, hein, qui marche très très fort aux États-Unis, qui a été lancé en France aussi. Vous pensez qu'il y a de la place vraiment pour ce nouveau genre de petit objet ? Parce qu'aujourd'hui, tous les appareils filment, hein, les appareils photo, il y a des caméscopes bien sûr. Il va trouver son segment, ce petit appareil ?
Sa particularité, la première, c'est de filmer en haute définition. Et la deuxième, c'est cette simplicité d'utilisation. C'est ça qui va le rendre populaire, c'est le fait qu'on ait cette connexion USB qui soit déjà intégrée et qui permet en quelques gestes, sans manipulation complexe, tout de suite de mettre ses images sur Internet.
C'est aussi un appareil photo 5 mégapixels. Hein.
Et c'est aussi un appareil photo. C'est vraiment un appareil de poche, c'est gros comme un paquet de cigarettes, c'est très convivial.
Quoi de neuf aussi, quoi d'autre en nouveauté chez Sony ? Qu'est-ce qui va marquer cette année 2010 ? Alors on a parlé de télévision 3D, on a parlé de ce Bloggy. Sur quel genre d'appareil vous portez tous vos espoirs là, hein, dans les semaines ou les mois qui viennent ?
Alors on a parlé de télévision en 3D, mais ce n'est pas la seule révolution dans la télévision, parce que la première chose qui va se produire sur la télévision cette année, c'est que la télévision devient connectée à Internet. On a une connexion qui le rend qui permet de dialoguer avec Internet, et en particulier on va pouvoir, sans passer par un boîtier extérieur, regarder de la catch-up TV sur les téléviseurs Sony. Donc on a signé un accord avec M6 Replay, et à partir du mois prochain, si vous achetez un téléviseur Sony, vous pourrez regarder sur votre téléviseur directement les programmes d'M6 Replay sans passer par un ordinateur.
Et là, c'est tous les téléviseurs haut de gamme. C'est à quel ça s'adresse vraiment à toute la gamme de produits ?
C'est pas toute la gamme, mais c'est la plupart des téléviseurs. Ça devient un équipement standard sur les téléviseurs. Et puis, on est en discussion avec d'autres chaînes de télévision pour pouvoir apporter aussi ce nouveau service.
Parce que l'objectif, c'est qu'on ne retrouve pas que les services d'M6, qu'on puisse avoir ce TF1, France Télévisions, et pour qu'on ait un panel, on va dire, énorme de chaînes et de services.
Bien sûr, à terme, il y aura plus d'offres. On a choisi aujourd'hui de signer avec celui qui est le plus populaire et le plus regardé, c'est M6 Replay.
Et ces télés connectées sont déjà disponibles ? Elles vont bientôt sortir ?
À la fin du mois, donc ça arrive extrêmement rapidement.
Philippe Citroën, merci beaucoup.
Merci à vous.
RMC, de quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, c'est le retour et la fin de Quoi je mêle sur rfc.fr. Merci d'être avec nous. Toujours ce CES 2010 qu'on vous fait vivre avec toute l'équipe que vous aimez. Et tiens, Victor Jakimovic qui m'a rejoint maintenant. Bonjour Victor.
Bonjour François.
Victor qui a fait le déplacement, bien sûr, pour ce CES 2010. Alors Victor, bon, avant de découvrir un petit peu vos coups de cœur de ce CES que vous avez, tout comme nous, un petit peu regardé de fond en comble, cette ambiance... Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces CES 2010 ? Ils sont assez partagés. Certains disent que c'est un grand cru. D'autres disent que, bon, finalement, ce CES ne marquera pas l'histoire des nouvelles technos. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, on peut effectivement être partagé. C'est un CES, d'abord, quand même, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs.
J'ai l'impression, d'ailleurs, plus de monde que l'année dernière.
Plus de monde que ce qu'on a connu depuis un ou deux ans, effectivement. Donc, c'est plutôt bien sur le plan de la fréquentation. Ça prouve que le business américain a des velléités de reprise.
Parce que rappelons que l'année dernière, donc le CES 2009 a été directement impacté par le début de la crise.
On était en plein dedans. Voilà. Enfin, on était, oui, au démarrage. Et clairement, l'industrie américaine se sentait pas très bien. Surtout, la consommation américaine se sentait pas bien. Bon, cette année, il y a effectivement du monde. Il y a du visiteur. Et on peut penser que c'est un bon cru sur le plan de la visite. Sur le plan des produits... Il n'y a pas réellement de révolution. On a connu la 3D déjà à l'IFA, hein, au salon de Berlin. On en avait eu des prémices un peu plus tôt. Bon, là, tous les fabricants ont de la 3D. Ça ne veut pas dire qu'elle est à vendre, ça ne veut pas dire qu'elle est à regarder. C'est une démonstration de savoir-faire pour les uns et les autres. Et puis,
on n'est pas encore dans la réalité, c'est ce que vous êtes en train de nous dire gentiment, c'est ça ?
Non, on n'est pas dans la réalité. La 3D au cinéma aux États-Unis, ça fait un tabac. En France aussi,
ça commence à bien marcher avec
avoir Avatar.
Des centaines de salles qui se sont équipées là, hein, ces derniers temps.
Un maximum d'argent en très peu de temps, etc.
Avatar qui sera sans doute le meilleur ambassadeur pour la 3D, que ce soit au cinéma ou à la télévision, parce que ce film-là va sortir un jour ou l'autre en Blu-ray. Donc ça risque d'être le point de départ aussi d'une nouvelle génération.
C'est même prévu, puisque, entre autres, Panasonic doit sortir son premier lecteur Blu-ray 3D en même temps que le disque Blu-ray Avatar 3D, bien entendu, ouais, puisque vous savez que Panasonic et Avatar ont eu un certain nombre de liens, puisque Avatar a été fait avec des caméras.
Des caméras Panasonic. Alors, juste pour la petite rumeur, il se murmure que James Cameron, tellement satisfait du résultat d'Avatar au cinéma, aimerait en fait repousser la sortie du Blu-ray 3D pour essayer justement de réitérer le succès de Titanic, ce qui ennuie évidemment.
Et de rentabiliser un peu plus voilà, le film.
Ce qui ennuie évidemment tous les industriels qui attendent un petit peu ce film comme le starter de quelque chose qui, vous avez raison, n'existe pas vraiment.
Mais il faut un début à tout.
Mais à votre avis, ça va être quand le point de départ? Ça va être la fin de l'année, la rentrée? On pourra commencer à trouver des écrans et tout le matériel disponible pour regarder de la 3D?
On va trouver des écrans à partir de la rentrée. Et quelques équipements pour pouvoir diffuser les quelques produits 3D du début. Oui. Parce que ça va pas se faire brutalement, c'est pas instantané. On passe pas d'un stade, il y a rien, il y a tout, ça va être très 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 progressif.
En tout cas, félicitations à Sony qui va rendre la PlayStation 3 compatible 3D, ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour les millions de possesseurs de PlayStation 3 qui vont se retrouver avec un produit qui sera up to date, comme on dit.
J'attends de voir les résultats et le comment, parce qu'il y a quand même quelques interrogations auxquelles il n'était pas possible d'ailleurs d'obtenir de réponses très précises ici. Mais
c'est vous doutez du fait que la PlayStation 3 puisse être un vrai lecteur Blu-ray 3D?
Sony a annoncé que ça ferait de la 3D, donc je veux bien croire que ça fera de la 3D. J'aimerais savoir au demeurant quelle 3D, quelle qualité de 3D, etc.
Bon, il va falloir creuser un peu.
Il y a quelques problèmes techniques, peut-être pas tous résolus. On verra.
À part ça, bon, évidemment, le plus grand écran chez Panasonic, un truc monstrueux, incroyable, un mur d'images absolument époustouflant.
Un mur image, effectivement, 152 pouces, c'est monstrueux. Mais c'est ce qui est surtout monstrueux, c'est la définition de cet écran. On se met devant au point de sentir la chaleur de l'écran, donc on est à 1 mètre.
Ça fait donc téléviseur chauffage.
Ça fait téléviseur chauffage.
C'est pratique.
Et à 1 mètre de l'écran, c'est fabuleux. On voit pas les pixels. C'est extraordinaire.
Et c'est du plasma, bien sûr, puisque aujourd'hui, il y a que cette technologie qui permet ce genre de démonstration de force.
Tout à fait.
On est d'accord.
Et puis que Pana rentabilise ses écrans, faut pas croire que ça n'est que pour le prestige. Il se vend des écrans de ce type dans un certain nombre d'installations. Ça coûte des fortunes, mais il y a des systèmes institutionnels qui n'ont pas le choix. Pour qui ce genre d'écran est un
investissement comme un autre, bien sûr. Alors le 152 pouces n'est pas encore disponible dans le commerce. C'est un prototype, ça va
arriver.
Mais
des 100 pouces, on en trouve partout maintenant. Hein.
Voilà, j'ose à peine imaginer combien il va coûter celui-là quand il va sortir. Mais le 103 pouces coûte 60 000 euros.
Enfin,
je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent et qui voulaient se l'offrir.
Il faut aussi le camion grue pour le poser, mais bon.
Et puis casser aussi les portes du salon là, parce que. Mais bon, c'est vrai que c'est un produit qui fait rêver. Bon, alors Victor, vous avez sillonné ce CES. Vous nous avez picoré quelques petits coups de cœur. On va commencer, par un truc qu'on n'attendait pas. C'est Yomega qui vous a surpris. Et alors, on s'est croisé lors du CES. François, vous m'avez accosté en me disant j'ai vu le truc du CES, ça m'a bluffé.
Ouais, absolument. Il y a un produit qui pour moi est une véritable révolution. Parce qu'il est complètement nouveau et fait complètement autre chose que ce qui existait jusqu'à présent, c'est chez Yomega. Yomega, on les connaît, grand installateur de disques durs. En réalité, Yomega ne fabrique pas de disques durs. Dedans, c'est du Seagate, du Western, etc. Mais Yomega, les package. Et développe des systèmes de logiciels.
Design aussi, non? Des choses comme ça.
Leur design, absolument. Oui. Mais Yomega, surtout, appartient à un très grand groupe de software américain où il y a des tas d'entreprises, Et Yomega a tous un rapport l'un avec l'autre. Absolument, en fait. Tous des rapports avec l'informatique, pratiquement tous des rapports avec la sauvegarde ou la sécurité. Et Yomega a utilisé le savoir-faire de une des entreprises du groupe pour sortir quelque chose qui s'appelle V-Clone. V-Clone, c'est un bout de logiciel qui est utilisable sur tous les disques durs actuels de Yomega, tous les disques durs du passé, ou presque tous, et surtout qui sera intégré complètement sur la plupart des modèles à partir de février prochain. Donc c'est du gratuit.
C'est-à-dire on achète un disque dur externe Yomega.
À partir de février.
Voilà, on a toute une suite de logiciels. Il y aura donc ce fameux V-Clone.
Voilà, c'est ça. Et V-Clone, c'est le plus fabuleux de tous les systèmes de sauvegarde jamais développés jusqu'à présent. V-Clone fait une image complète, vous le branchez sur votre PC, et il fait une image complète du disque de votre PC. Image complète incluant l'operating system.
Donc, le système d'exploitation. Windows, il enregistre tout. Mac aussi, ça marche?
Non, ça marche pas encore en Mac, à mon grand regret.
Mais que se passe-t-il?
Il faut le temps.
Ah, d'accord.
Mais ça viendra.
Il y a plein de choses qui marchent pas sous Mac, quand même.
Il y a plein de choses qui marchent pas sous Windows non plus. C'est pas le problème. Mais en tout cas, ça viendra. Non. Donc, V-Clone fait une image complète du disque. Et quand vous prenez votre disque dur, vous allez sur un autre PC, vous le branchez et vous allez retrouver la totalité de votre PC, de votre ordinateur avec son operating system, avec sa configuration, son bureau, la façon dont c'est organisé. Vous allez faire ce que vous avez à faire, changer des données, les modifier, sans laisser aucune trace sur le PC hôte, puisque vous travaillez en fait complètement sur votre disque dur.
Oui, c'est de la virtualisation uniquement. Là, c'est-à-dire que dès que j'enlève la clé USB, enfin le port USB du disque dur externe, le système d'exploitation original de la machine réapparaîtra.
Absolument. D'accord. D'ailleurs, vous parliez de virtualisation, VMware, qui est le numéro un mondial de la virtualisation, appartient justement à la galaxie qui possède Yomega, et c'est VMware qui a mis au point, c'est un très gros travail, qui a mis au point donc ce logiciel. Donc, sur votre PC hôte, vous allez débrancher, vous récupérez toutes vos données, vous n'avez absolument rien modifié sur le PC en question, vous rentrez chez vous, et vous avez un bouton qui dit « synchroniser », et toutes les modifs que vous avez faites vont venir se remettre sur votre PC. C'est donc une sauvegarde comme il n'en existe pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on sauvegarde des données, des fichiers, des bouts de logiciels.
Là, on sauvegarde tout, en
Là,
fait.
On a une sauvegarde totale.
Et c'est long, parce que j'imagine que pour transférer tout un système d'exploitation, des logiciels, etc., ça doit prendre du temps, non?
C'est long la première fois, mais une fois qu'on
après,
l'a fait,
fini,
ensuite...
Oui, c'est de l'incrémentation, en fait.
C'est de l'incrémentation, ça va tout seul. Et ça, vraiment, c'est pour moi le produit le plus... Peut-être le plus révolutionnaire de ce salon, c'est VMware.
C'est d'une simplicité incroyable, mais ça n'existait pas avant.
Et non. Fou, avant, on sauvegardait des bouts de fichiers, on sauvegardait des logiciels, mais on ne sauvegardait pas la totalité de son environnement de travail.
Et puis, simplement pour avoir une sécurité, c'est fabuleux pour ça. C'est-à-dire qu'on fait une sauvegarde.
Derrière, on peut détruire son PC, on s'en fout.
Et après, il suffit de rebrancher et on réinstallera en fait l'image.
On réinstallera l'image, mais on ne pourra pas copier tout les contenus, parce qu'entre autres, ça voudrait dire qu'on autorise le piratage et le système ne permet pas de réinstaller, par exemple, un OS ou une application dont on n'aurait pas les clés.
D'accord.
On serait obligé de rester sur son disque dur dans ce cas-là.
Voilà, c'est un peu les limites de ce système, en fait.
Mais c'est des limites géniales.
C'est déjà pas mal.
C'est des limites géniales.
Bon, voilà pour Yomega. En plus, c'est gratuit, donc ça, c'est pas mal. Si on achète un disque dur Yomega ou si on en a un, déjà.
Yomega, mais c'est pas idiot comme argument publicitaire, j'en connais de pire.
Oui, c'est vrai. On va parler de projection maintenant. Vous vous êtes arrêté sur le stand Casio.
Oui.
Et là, vous avez peut-être découvert ce que sera le projecteur de demain.
J'ai découvert en tout cas un gros progrès par rapport à tous les systèmes de projection actuels. Il faut savoir, enfin tout le monde sait d'ailleurs, que les projecteurs actuels utilisent des lampes dont la durée de vie est pas extraordinaire. Allez, ça va de 1500 à 3000 heures, sachant que de toute façon, assez rapidement, la quantité de lumière se dégrade, les couleurs se dégradent, donc l'image...
Sans évoquer évidemment la chaleur que ça dégage et tout le système de refroidissement qu'il faut pour que...
Oui, le côté écologique et économique.
Oui, bien sûr, et sonore aussi, parce que le projecteur, ça fait du bruit. Hein.
Et il ne faut pas oublier que dans les lampes, il y a des matériaux toxiques, dangereux, mercure, etc. etc. Et Casio a inventé un système d'éclairage différent qui fait appel à des LED... ça, c'est pas tout à fait nouveau, on en connaissait déjà, mais qui fait appel à des LED et à des lasers complémentaires, des diodes laser, de façon à pouvoir fournir une image beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus riche sur le plan de la couleur que tout ce que l'on connaît jusqu'à présent.
Oui, parce que la limite du LED, c'est qu'on a une image qui est pas très lumineuse, un peu froide aussi par rapport à la richesse qu'on peut avoir avec un projecteur traditionnel.
Absolument,
c'est ça ?
Jusqu'à présent. Mmh. Eh ben, Casio a rompu cette limite. Et donc, ils ont sorti un petit projecteur à vocation hybride. J'entends par là que c'est un petit projecteur professionnel, enfin, pour des gens qui doivent se balader avec, qui est petit, qui est léger, qui est simple, mais qui peut également être utilisé en HD ready.
Hein, donc, oui, donc en 720p.
Donc en 720p, en 16:9 et réellement de bonne qualité. Mais surtout, sa lampe fournit 20 000 heures de fonctionnement.
Ah oui.
20 000 heures de fonctionnement, ça veut dire des frais de fonctionnement qui sont maîtrisables. Le problème jusqu'à présent d'un projecteur, prenons une institution ou un système de promotion. On veut installer une image 8 heures par jour. Attendez, oui. 20 000, les 1500 heures.
Ouais. Ils sont cramés en quelques semaines.
Très vite.
Donc après, il y a un budget. Et puis le budget du changement de l'ampoule n'est pas anodin.
Le budget de l'ampoule est loin d'être anodin, absolument. Donc là, on a inventé réellement un nouveau système de vidéoprojection. Ça va au-delà simplement de l'économie. Mm-hmm. Et alors, cette technologie va être décliné sur des projecteurs beaucoup plus petits. On parle depuis toujours du Pico projecteur, oui, celui qui
qu'on retrouve dans le Nikon là que vous aviez bien aimé,
l'appareil
photo.
Bon, le problème c'est que c'est pas très lumineux. Ces Pico projecteurs, ils ont 30 lumens maximum de lumière, ce qui est très très faible. Et avec la même technologie que ceux qu'ils ont développé là, Casio arrive à sortir 100, 150 lumens et plus dans des produits tout petits. Et je pense qu'ils détiennent là une des clés de la vidéoprojection mobile.
C'est étonnant parce qu'on les attendait pas sur ce segment, Casio, non ?
Bah, ils avaient déjà fait une série de vidéoprojecteurs à usage plutôt business qui marchaient bien d'ailleurs, ouais. Qui avaient une bonne réputation, mais là ils ont fait. Mais Casio est une boîte bizarre, c'est une boîte touche à tout, c'est le premier fabricant de calculatrices.
Ouais, c'est étonnant.
Ils fabriquent des pianos électroniques.
Ils font de très bons appareils photo, bien sûr.
Ils font des appareils photo tout à fait étonnants, mmh. Avec des caractéristiques. Il y a d'ailleurs sur le stand quelques nouveautés dans ce domaine qui sont tout à fait passionnantes. Ouais, enfin, c'est des gens qui sont très touche à tout.
Ouais, ouais. Mais souvent quand on est touche à tout, on n'est pas très bon, mais là.
Avec talent, les montres anti-choc.
Les montres Casio,
moi,
bien
je
sûr,
les aime pas esthétiquement, mais elles font des trucs extraordinaires et à des prix tout à fait décents. Enfin bon, c'est une boîte bizarre, mais c'est bien d'avoir des boîtes comme ça qui inventent.
Bon, et après, un coup de cœur commun pour terminer. En plus, c'est un coup de cœur français. Et ça fait plaisir. Et là, on ne dit pas ça parce qu'on est chauvin. Mais c'est vrai que l'une des animations créées lors de ce CES, c'est par Rod qu'il a faite avec son petit droïde AR. C'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais, une espèce d'hélicoptère. Alors, c'est...
Bon, ça ne sert à rien. On vous le dit tout de suite. C'est un truc. Voilà, ça ne sert à rien.
Une démo de savoir-faire. C'est une espèce... L'objet en question est un parallélogramme...
Un hélico, je crois qu'il y a plusieurs hélices.
Mais les hélices, on les voit pas. Tout ça est camouflé. Il y a 4 hélices, effectivement.
Voilà. Et autour des hélices, vous avez des protections en polystyrène qui vous permettent de protéger l'hélico quand il vole. Parce que si vous tapez contre un mur, le polystyrène servira en quelque sorte d'airbag.
Absolument.
Et puis surtout, ça le rend moins dangereux. Parce que c'est vrai que si on n'est pas au début un excellent pilote, on peut, faire du mal avec donc, ce genre d'appareil.
C'est un hélico domestique, on peut jouer avec à la maison, on peut le manipuler, c'est capable de mouvements tout à fait précis, extraordinaires. Et alors ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, l'objet de commande, l'organe de commande, c'est un iPhone.
Oui.
Ce qui est quand même encore une application complètement délirante de cette foutue machine à tout faire.
Alors moi je me suis évidemment précipité pour le tester, et ouais. C'est quand même incroyable parce que donc vous avez l'écran tactile de l'iPhone qui vous permet de diriger simplement avec le pouce l'hélico, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que l'hélicoptère est équipé d'une petite caméra devant, et cette caméra en fait filme une image qui est retransmise en Wi-Fi sur l'iPhone. C'est-à-dire que vous pouvez, alors ça c'est dans un monde parfait, pouvoir piloter l'hélicoptère même si on ne le voit pas de visu véritablement, puisque on voit sur l'écran ce qu'il est en train de filmer.
Et puis ça donne des points de vue qu'on ne peut pas avoir quand il est à 5 mètres de haut. Voilà. Il ne voit pas la même chose que quand on est assis dans son fauteuil à 1m50.
Et puis bon, et alors ils ont rajouté une couche de réalité augmentée, c'est-à-dire que sur cette image, vous pouvez imaginer avoir des ennemis qui vont être virtuels, qui vont apparaître et que vous allez pouvoir zigouiller avec des...
Les ennemis, il en voilà. faut toujours.
Voilà, hein. Mais là, il y en a.
Donc dans les jeux, c'est...
Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est Henri Sédou, donc qui est le patron de Parrotte, et qui voulait créer ce truc-là parce que je lui ai posé la question depuis des années. Alors ils sont spécialisés dans le Bluetooth au départ, et ils n'y arrivaient pas parce que c'était pas très réactif, etc.
En fait, ils sont spécialisés dans l'autoradio.
Oui, au départ.
On les connaît mal.
Et dans tout ce qui est système aussi transmission Bluetooth là.
C'est venu à cause
après.
De l'autoradio.
D'accord.
C'est venu à cause de l'autoradio parce que l'autoradio logiquement fait du Bluetooth et autres, mais Parrotte, pour l'essentiel, pour autant que je le sache, la majeure partie de ses revenus, pour ne pas dire la totalité, provient pas des cadres photos et des autres drones.
Ou des produits Stark très chers.
Etc. Je crois que la majeure partie des revenus provient de la fabrication et de la vente à l'industrie automobile.
De systèmes déjà.
D'autoradio.
Audio, d'accord. Et donc voilà, c'est un produit assez étonnant. Alors bon, on ne sait pas quand ça va sortir. Ça va sortir cette année, c'est tout ce qu'on sait. Et on ne connaît pas le prix, mais à mon avis, ça va être assez cher parce qu'il y a pas mal de techno là-dedans.
Hein. Oui, et puis qu'en général, ils ne sont pas très donnés. Je pense à leur dernier cadre photo qui est sublime. Voilà.
Système d'enceinte, Stark, là.
Qui atteint des sommets, quoi. Bon. Esthétiquement, il faut dire que c'est très 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 chiadé et que l'esthétique a un prix.
Bon, Victor, merci.
De rien, François.
C'est toujours un plaisir d'avoir votre vision de ce salon, de ce Consumer Electronics Show. Rentrez bien sur
vous
Paris.
Aussi.
Faites-vous un bon steak, parce que je sais que vous aimez
ça.
C'est
au programme.
Voilà, on va le faire ensemble.
Mais je vais retourner au salon d'abord. J'ai encore des trucs à voir.
Merci, Victor. Victor Jakimovic, donc. C'est avec Victor que se termine ce De quoi je me mêle. J'étais ravi de pouvoir vous faire vivre encore une fois cette année ce Consumer Electronics Show. N'hésitez pas à nous écrire, rmc.fr, rubrique De quoi je me mêle, ou directement sur mon adresse mail, fsorel@rmc.fr, ou bien alimenter le groupe Facebook de quoi je me mêle, qui marche toujours super fort. Et puis voilà, on peut tous comme ça discuter ensemble de ces nouveautés qu'on a pu voir au CES. Salut à tous, portez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine.